Halleluja, 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 Halleluja. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que l'Esprit Saint, le Père des pauvres, illumine notre cœur et notre intelligence pour nous conduire à la vérité tout entière. Notre-Dame du Très-Saint-Rosaire, Notre-Dame du Très-Saint-Rosaire, Notre-Dame du Très-Saint-Rosaire, écoutez, nous allons continuer notre petite recherche sur le mystère de la confession. Et à moins qu'il y ait des questions à poser, je vois que vous pouvez me donner un stock de questions par voie écrite, c'est très bien. Vous voyez que ça permet au moins de refaire un petit bilan, n'est-ce pas? Et c'est très très bien. Et plus les questions sont grosses, plus c'est intéressant. Plus de questions. Donc, faut pas avoir peur de poser des questions qui ont l'air idiotes. Parce qu'aucune question est idiote. Et au contraire, plus une question est idiote, plus elle est proche du problème. Faut bien se le dire. De même que dans une confession, plus un péché est énorme et moins on ose l'exprimer, plus la confession est sainte. Vous pouvez nous donner quelques techniques d'examen de conscience. Est-ce qu'il y a une méthode pour l'examen de conscience? Oui, puisque l'examen de conscience, c'est quand même quelque chose de très important. Mais d'où savons-nous qu'il faut faire un examen de conscience? Faire un examen de conscience parce qu'on ne peut pas. On ne peut pas se permettre de faire une confession d'ordre psychologique, c'est ce qu'on disait hier. Et c'est pour ça que l'examen de conscience est nécessaire. On commence l'examen de conscience en sortant du point de vue du sentiment de culpabilité, en faisant un acte d'adoration et en se reliant à nouveau à notre Dieu. En recevant ce pardon de Dieu, et du coup, on reçoit l'Esprit Saint et on demande à l'Esprit Saint de nous montrer de nous montrer notre vie tout entière. Et l'examen de conscience, le pardon y est déjà. Et c'est à la lumière de l'Esprit Saint que je fais mon examen de conscience. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de manières de faire l'examen de conscience. Je peux prendre par exemple ce que l'Esprit Saint dit dans l'Écriture. Je prends les 10 commandements. Je prends la Torah, le livre de Lévitique, je prends les 10 commandements de Dieu. Et je me les rappelle dans ma tête, les 10 commandements de Dieu. Je peux prendre successivement les 10 commandements de Dieu. Est-ce que je n'ai pas péché contre Dieu le Père? Est-ce que je n'ai pas péché contre Dieu le Fils, le Christ? Est-ce que je n'ai pas péché contre Dieu le Saint-Esprit qui anime le corps mystique de l'Église? Et donc contre les sacrements. Est-ce que je n'ai pas péché aussi contre la foi, l'espérance, la charité? Voilà pour les 3 premiers commandements. Est-ce que je n'ai pas péché contre mon prochain en refusant de reconnaître que Dieu est dans mon prochain et donc que mon prochain a autorité sur moi? 4e commandement, tu respecteras ton père et ta mère. Ton prochain est toujours ton père et ta mère parce que Dieu est en lui et donc il a autorité sur toi. Tu dois obéir toujours à ton prochain. tu prends le cinquième commandement, tu ne tueras pas. Tu ne reconnais pas que nous avons été créés dans la vérité, à l'image du Verbe, à l'image du Christ, et que nous sommes fabriqués pour la vérité. Et le Christ est vérité, et ton prochain est créé, fabriqué avec de l'amour, et capax veritatis. Donc il a droit à la vérité. Tu n'as pas reconnu dans ton prochain le Christ, et donc tu lui as menti. Tu as tué. Ça c'est pour le mensonge, mais le mensonge, je m'excuse, c'est le septième commandement. C'est le huitième, pardon. Je parlais de l'homicide, là. Et en fait, on regarde à ce moment-là tous les commandements. Donc tu ne tueras pas. Tu ne tueras pas, c'est le cinquième. Et tuer, c'est notamment juger quelqu'un. Juger quelqu'un, c'est le tuer. Médire de quelqu'un, c'est le tuer. Calomnier quelqu'un, c'est le tuer. Et si on s'habitue à juger quelqu'un, à médire, à dire du mal, même si c'est vrai, sur quelqu'un, et à dire des choses qui sont mal et qui ne sont pas vraies sur quelqu'un, la calomnie, à ce moment-là, on est un criminel. Soit par le jugement de son prochain, la médisance et la calomnie. Sinon, il me paraît impossible qu'une femme fasse un avortement. Mais c'est le même péché, juger son prochain. Un criminel ne peut pas, on ne peut pas tuer si on n'a jamais jugé son prochain. C'est impossible. C'est psychologiquement et physiquement, instinctivement, il faut que des forces instinctives quand même pour tuer. Bon, le sixième commandement, c'est celui de l'amour. Je ne vais pas respecter le caractère sacré de l'amour dans mon prochain. Nous sommes faits pour un amour qui est éternel, absolu et totalement pur. Et c'est pour ça que je ne pratique pas l'adultère. Et mon corps est réservé pour l'amour pur. Et donc dans un amour où le Christ est entièrement présent pour le mariage. Et puis c'est tout. Dans le mariage, l'amour est totalement pur. Et le don des corps n'a aucune tâche. Parce que dans le mariage, l'autre n'est pas réduit à un objet. Et donc je respecte la pureté. Le septième commandement, tu ne voleras pas. Tu ne donneras. Vous voyez, tout ça, c'est. De ne pas prier pour son prochain. Dieu donne la grâce d'être jaloux de son prochain. C'est le voler. Il y a des grâces que je n'ai pas. Mais je suis jaloux. Alors je voudrais voler les grâces qu'il a. Tu ne voleras pas. Tu ne dépouilleras pas l'Église de son bien en ne priant pas pour l'Église. Tu ne voleras pas l'Église en refusant de prier pour le pape. C'est péché par omission toujours, hein, tout le temps. Les commandements sont toujours des péchés par omission. Bon, tu ne mentiras pas, je vous l'ai dit. Tu ne reconnais pas dans ton prochain le Christ. Et il est destiné, prédestiné à être Christ. Donc il a droit à la vérité. Donc tu ne mentiras pas. Le Christ est vérité. Et tu ne reconnais pas que celui qui est à côté de toi, il n'est pas dans le mal. Il est dans l'attente de Christ. Donc tu ne dois pas lui mentir. Il est sur la croix, c'est tout. Et si tu vois le mal en lui, tu es un menteur. Il est sur la croix. Je crois qu'il est dans la haine, qu'on voit apparemment, mais il est sur la croix qu'on oublie trop souvent. Vous connaissez ces deux vers, n'est-ce pas ? Tu ne voleras pas, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne mentiras pas. c'est quoi ça? C'est 6, 7, 8. Neuvième commandement. Neuvième commandement. Vous connaissez les commandements? Mieux que moi, j'espère. Neuvième commandement de Dieu. Je ne m'en rappelle plus. Enfin, vous prenez les 10 commandements. C'est le quatrième. Dieu est dans ton prochain et c'est pourquoi il a autorité sur toi. Et tout homme, toute personne qui est face à toi, à côté de toi, c'est ton prochain et c'est ton père et c'est ta mère. Toute personne. Parce que Dieu est en lui et donc il a autorité sur toi. Tu dois lui obéir. Tu dois obéir à ton prochain. Et il est évident que si tu n'es pas capable d'obéir à ton père et à ta mère, tu seras encore moins capable de saisir que le prochain qui est à côté de toi a autorité sur toi et que tu dois lui obéir. Et on apprend à reconnaître Dieu dans son prochain en obéissant à son père et à sa mère et en reconnaissant que Dieu te donne la vie par ton père et ta mère et que c'est Dieu qui te donne la vie. Et du coup, ton prochain te donne la vie. La moindre parole de ton prochain a autorité sur toi. Tu reconnais Dieu à travers ça. Vous voyez ? Le neuvième commandement, eh bien je ne m'en souviens plus. Et le dixième, c'est tu n'envieras pas. Tu ne porteras pas, tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, la femme de ton prochain, etc.
Tu ne porteras pas de témoignage mensonger contre ton prochain. C'est le neuvième.
Ah, mais ça, c'est tu ne mentiras pas, oui. Oui, d'accord, c'est le point de vue collectif. Hein. Donc c'est le... D'accord.
L'adultère.
Oui, l'adultère, c'est le dixième. Oui, c'est l'adultère. Pratiquera pas l'adultère. Bon. Bon, vous voyez, donc vous, tu ne pratiqueras pas d'adultère. Bon, ben, tu ne pratiqueras pas d'adultère, c'est là carrément des choses qui sont purement négatives. C'est-à-dire, tu ne feras pas de commerce avec les démons. L'adultère par rapport à Dieu, c'est de s'occuper des démons et de prendre des spiritualités qui ne sont pas les spiritualités que Dieu a proposées. Les voies magiques, les voies médiumniques, les voies de divination, les voies de cartomancienne, les voies du Nouvel Âge, les voies tout ça. Tu ne pratiqueras pas l'adultère. Et l'adultère, c'est d'aller voir la voyante, c'est d'aller voir le guérisseur, en faisant attention, bien sûr, qu'il y a des gens qui ont le don de guérison. Et c'est pas le guérisseur que je viens voir quelquefois. C'est pas pareil d'aller voir un médecin et un guérisseur. Il y a des gens qui, sans être médecins, diplômés, n'est-ce pas, bon, ont un... Bon, te communiquent une certaine guérison. C'est normal s'ils prient pour toi. Mais il faut faire attention à l'idolâtrie. Parce qu'à ce qui guérit à partir des puissances intermédiaires, il faut y faire extrêmement attention. Il faut une prudence énorme. Bon, deuxième possibilité pour un examen de conscience, on peut prendre les béatitudes. On peut prendre les béatitudes ou les sept dons du Saint-Esprit. Je prends les béatitudes, chacune des béatitudes, et je demande à l'Esprit-Saint de m'aider à voir, dans la lumière de chacune des sept béatitudes, de cette manière, au fond, d'aimer Dieu à travers une dimension de l'homme, puisque c'est ça les béatitudes, à la lumière de chaque béatitude, je regarde ce que j'ai fait. Je regarde si, est-ce que je suis pauvre? Est-ce que je suis pur dans mon cœur? Est-ce que je suis, etc. Vous voyez, est-ce que, et on peut le prendre par le point de vue de bienheureux les pauvres en esprit, bienheureux les purs de cœur, bienheureux les affamés et assoiffés de justice. Ou alors je peux le prendre du côté des dons du Saint-Esprit, donc des prédispositions, la capacité à recevoir les dons, ou bien du don du Saint-Esprit lui-même. Si c'est le don de sagesse, bienheureux les pacifiques, est-ce que je fais oraison? Si c'est bienheureux les cœurs purs, c'est est-ce que, quand j'assiste à la messe, je vis la messe dans une foi surnaturelle, actuelle. Je dis je crois, j'adore, j'espère, je t'aime. Comme l'Immaculée croyait, je veux croire. Comme l'Immaculée croit, je crois. Je ne crois pas comme moi, je crois comme l'Immaculée. Au moment où Jésus est là, je veux croire. C'est avec surnaturellement Jésus. Je rentre dans Jésus. À chaque messe, est-ce que j'ai manqué du don d'intelligence? De vivre dans une pureté du cœur, chaque sacrement, chaque moment de ma vie, ma prière, manque de dont piété, bienheureux les miséricordieux, et seront miséricordiés, c'est le don de piété. Est-ce que je manque de ferveur? Est-ce que je bougonne quand je rends service? Mais non, quand je rends service, il faut le faire avec beaucoup de ferveur. Avec beaucoup d'amour. Et si je bougonne, ben, ça veut dire que je me force un peu. Je fais par contrainte. Et du coup, le soir, je suis fatigué et énervé. Quand le soir, je suis fatigué et énervé, ça prouve que j'ai fait un service par contrainte. Donc, je l'ai fait dans la fausse humilité. Donc, il n'y avait pas d'amour. J'aurais dû dire, oh, Seigneur, c'est par amour, et je le fais. Alors, à ce moment-là, le soir, il n'y a pas d'épuisement. Il n'y a pas le découragement. Il faut repérer ça. Si le soir vous êtes découragé, ça prouve que vous avez fait les choses dans la journée avec contrainte, ça prouve que vous l'avez fait dans une fausse humilité et que vous ne l'avez pas fait dans l'amour. Alors vous repérez quand est-ce que vous avez fait un petit service en bougonnant. Et votre découragement du soir vient de là. Enfin bref, prenez les sept béatitudes, les sept dons du Saint-Esprit. Ben, vous pouvez prendre aussi des petits missels d'il y a 50 ans. Il y en a un petit missel d'il y a 50 ans, vous avez la liste à peu près de 150 péchés. Alors vous prenez chaque péché. Ça, vous pouvez faire ça aussi. Tout ça pour dire qu'il n'y a pas de méthode. Mais on doit s'arrêter pour l'examen de conscience. Mais moi, si vous voulez que je vous donne une petite charte pour que le sacrement de pénitence, de même que le sacrement de l'Eucharistie, inonde toute votre vie et inonde le monde entier à travers votre vie, il faut que tous les soirs, vous arrêtiez une minute ou deux quand vous vous couchez, quand vous vous endormez, après avoir dit « Je vous salue Marie », même si vous êtes allongé, c'est pas grave. Et avant de dire le deuxième, je vous salue Marie, juste avant que vous vous endormiez. Mais si vous endormez pas, vous pouvez dire d'autres, je vous salue Marie, jusqu'à ce que vous vous endormiez. Vous pouvez même rajouter des Notre Père, des tout ce que vous voulez. Des chants en langue, des babillements, tout ça. Et puis, c'est merveilleux, tu restes si vous vous endormez pas. Cette heure que le réveil sonne, vous vous levez, mais génial, j'ai passé ma nuit en prière. Mais en tout cas, pendant les deux ou trois minutes qui précèdent, qui sont entre le premier « Je vous salue Marie » et le second, alors vous dites, vous demandez à Jésus, vous demandez à Marie, vous demandez à l'Esprit-Saint de vous montrer, depuis que vous vous êtes levé le matin, jusqu'à ce soir, jusqu'à maintenant, le moment où vous avez dérapé. Il y a un moment où vous avez quitté la présence de Dieu. Il y a un moment, une pensée, quelque chose, ça y est. Parce qu'à chaque fois qu'on se réveille, mon amour, ma compassion chaque matin se renouvelle, dit le psaume. Chaque matin, il y a une grâce de résurrection, dit un autre psaume, je ne me rappelle plus lequel. À l'aurore, je réveillerai tous les miens. Le réveil, c'est la résurrection. Donc il y a une grâce de résurrection tous les matins. Et de l'instant où je me lève, il y a un moment où je quitte la présence de Christ, la présence du Messie, la présence de l'onction, la présence de Dieu, en faisant un acte. Ça peut être une pensée, ça peut être le refus de se mettre à genoux alors que j'y pense. Oh, petit déjà. Ça peut être la première parole un peu sèche au travail, etc. Entrez. Je suis la porte. Et pas la peine de regarder toutes les bavures de la journée. Juste la première. Si vous faites ça tous les soirs, avant de faire votre examen de conscience, du sacrement de pénitence un mois après, puis si vous confessez tous les 15 jours après, vous verrez que le Saint-Esprit vous montrera tout ce qu'il faut dire. Il vous montrera les gros trucs, il vous montrera la cause. Parce qu'il faut confesser la cause. Il faut trouver la cause. Comment se confesser quand on a des scrupules, quand on est dévoré de scrupules, quand on est dans la nuit noire, quand on a du dégoût, même dans la communion, quand on est parasité par des pensées, des remarques, des jugements mauvais et dégoûtants, et qui sentent mauvais. Oui, le scrupule, c'est une fille de l'orgueil. Et donc, je me rappelle que quand j'allais me confesser à Paris, je sais pas, ça fait quel âge, 25 ans peut-être, et 26. Et puis, deux ou trois fois de suite, les confesseurs m'ont dit, oui, mais vous êtes scrupuleux. Alors du coup, les quatre ou cinq fois suivantes, j'ai demandé au confesseur, parce que je me confessais à Paris à au moins 60 prêtres différents. C'est l'avantage de Paris, c'est que dès que j'envoyais un, hop, je demande la confession. Alors, pour ça. Alors, je demandais, je ne savais pas, qu'est-ce que c'est le scrupule? C'est quoi le scrupule? Alors, aucun n'a su me répondre ce que c'était que le scrupule. Dis-moi le scrupule, bon, bah, c'est... C'est le scrupule. C'est quoi le scrupule? Vous savez ce que c'est que le scrupule? Hein? Le scrupule, il s'arrête au détail. Il s'occupe des accidents. Il ne regarde pas la cause. Le scrupuleux, c'est un orgueilleux. Il se gonfle. Hein, les scrupuleux, c'est assez psychologique, c'est un phénomène d'angoisse, mais c'est surtout un phénomène d'orgueil. C'est l'enfant de l'orgueil, le scrupuleux. Le scrupuleux, il veut être le maître de son affaire. Il veut tout maîtriser. Il a péché et il veut tout dire. Il veut pas qu'il... Il veut que tous les détails, ça dit, le moindre détail, inutile, complètement. Il va dire, et alors il faut rajouter, encore rajouter, encore rajouter, encore rajouter, encore rajouter, les circonstances, le machin, tout ce qui... Alors on n'en finit pas, et finalement on ne dit jamais son péché. Oui, parce qu'il faut expliquer comment les circonstances, comment ça s'est passé exactement, et hop, je t'ai amené là. Voyez, le scrupuleux, et puis même, il va d'un truc à l'autre, ça passe d'un truc à l'autre, il va parler très très vite, même saccadé, parce qu'en même temps, il se rend compte que c'est pas exactement ça qu'il faut dire, et mais en même temps, il sait pas ce qu'il faut dire, le pauvre, il est complètement perturbé. Scrupuleux, c'est pas du tout celui qui dit rien, qui dit, oh, je sais pas, non, c'est au contraire, c'est quelqu'un qui est là, qui tourne, c'est pas du tout joyeux, le scrupuleux, hein, c'est pénible, le scrupuleux, oh là là, qu'est-ce qu'il souffre, le scrupuleux. Ouais, il est perdu, il n'y a aucune confiance, aucune espérance, il n'est pas pauvre, c'est pour ça. Alors du coup, c'est les détails, il s'arrête à plein de détails. Qu'il a fait ça, et puis il revient, il confesse, mais il revient dessus, il dit oui, c'est horrible, j'ai fait ça, mais oui. Et alors, il ne s'intéresse pas au péché, et il revient sur ce que ça implique pour lui, mais que c'est horrible, que il en rajoute, il gonfle le truc, il gonfle. Vous voyez, c'est ça le scrupuleux. Alors comment se confesser quand on a des scrupules? Ben, quand on a des scrupules, il ne faut pas se confesser. Il faut se confesser sans scrupules. Sans aucun scrupule. Sans aucune gêne. Aucune. On dit ce qui est mal. On dit pas ce qui est bien, on dit ce qui est mal. On dit pas. On dit le fait. On dit voilà. Ça. On dit les 3, 4, et puis c'est tout. Ça c'est vrai. Ah oui, ça c'est vrai. Ma mère m'a dit ça, j'ai eu envie de lancer un glavio au visage. Mais je l'ai pas fait, mais j'avais envie, vraiment. Tiens, si je pouvais le faire. Et puis, voilà. Bon, je demande pardon. Et puis vite, je passe à autre chose. C'est fait, ça y est, c'est dit. Je m'arrête pas. Le scrupuleux, il s'arrête. Parce que ce qu'il a fait, ça l'intéresse. Parce que comme ça, il a l'impression d'exister. Alors, il rentre dedans et continue. Mon échelle, là, là, là. Il dit, ouais, mais il faut dire qu'elle m'avait énervé, etc. Mais moi, je sais pas, vous voyez, vous comprenez ça. Je dis le fait, tout simplement. Pas gêné, directement, carrément. Voilà. Je suis avare. Il n'y a rien à faire, je suis avare. Ouais. Pas beaucoup de gens qui confessent leur avarice. Il y a deux péchés qui sont très difficiles à avouer, c'est la jalousie et l'avarice. Attention, je ne vais pas dire « Oh, je suis jaloux ». Non, non, je suis jaloux de telle personne. Je suis jaloux d'Henriette. Je suis jalouse d'Henriette. Elle est pétulante et moi non, alors je suis jalouse. Elle est bien, moins bien. Voilà. Bon. La jalousie, les gens ont du mal à confesser la jalousie. La jalousie, hein. C'est... Et puis, l'avarice, c'est pas commode à avouer. Pas commode. Je suis avare. Pour moi, mon avoir, c'est important. J'y passe beaucoup de temps. Énormément de temps. Je passe plus de temps qu'à l'oraison à penser à des problèmes matériels. Donc, mon Dieu, c'est l'argent. Puisque vous voyez où est votre Dieu sur une balance. Et la balance principale, c'est le temps qu'on y passe. Alors, savoir si mon Dieu, c'est l'argent ou si Dieu, c'est Dieu. Jésus, si c'est le dépouiller, le crucifier, chut. L'abandon à la providence, alors. Ça, on a du mal à confesser l'avarice, beaucoup de mal. On se cache pas mal derrière les arbres du jardin. Hein. Mais évidemment, les fautes contre la pureté, en général... Pas difficile d'accuser les fautes d'adultère, de fautes d'impureté, j'allais dire, pas difficile, ça en général. Mais les fautes de pureté solitaire, très difficile aussi à avouer. Là, j'ai remarqué, c'est les trois trucs. L'impureté solitaire est une chose... Voilà. Mais il faut le dire carrément, c'est tout, c'est ce péché. Bon. Voyez ? Sans scrupule. Je me gêne, je dis les choses telles quelles. C'est l'aveu. Je confesse ce que je suis. Je confesse les actes qui me révèlent. Tel que si, voilà ce que je vaux. Voilà. Voilà ce que je vaux. Ce que Jésus a fait sur la croix. Il a dit au Père, tous ces sentiments des pécheurs qui sont sur moi, que je ressens, sans péché, mais il a les sentiments des pécheurs. Ouh, je ne sais pas si vous voyez, c'est atroce. Il n'y a plus que les sentiments des pécheurs. Il dit, voilà ce que je vaux. Voilà ce que je vaux. Jésus sur la croix, voilà ce que je vaux. Il n'estime pas du tout qu'étant crucifié, c'est injuste. Il trouve ça parfaitement juste, Jésus. Parce qu'il a les sentiments des pécheurs. Il trouve pas ça injuste. Il dit, voilà ce que je vaux. Tous les péchés sont dans son... ont pénétré en lui, dans tous ses sentiments. Il n'a pas péché, mais il a toutes les conséquences du péché. Et parmi les conséquences du péché, il y a cette espèce de séparation de Dieu, cette révolte contre Dieu, comme Thérèse de l'Enfant Jésus, qui avait cette espèce de blasphème qui était dans sa bouche, qui était dans sa tête, qui était dans son... Mais c'est une petite, toute petite image, cette histoire de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, pour voir ce que Jésus était sur la croix. Ne trouvez pas ça injuste du tout. Pas du tout. D'être crucifié. Et la confession, vous voyez, c'est extraordinaire, la confession de Jésus. On est joyeux, vous savez. Quand on est sans scrupule, on est joyeux. On est joyeux parce qu'on sait qu'à travers ce péché, on est pardonné. À travers ce péché, on ressuscite. Que c'est ce péché qui devient la porte pour nous de la résurrection. Et comme je suis pressé de vivre de la résurrection, et que je vis déjà de la résurrection, je prends cette porte et je l'ouvre. Et c'est cette porte-là que j'ouvre. Je ne sais pas percer un mur. Je prends le péché. Et je suis heureux de prendre ce péché. Je suis heureux de le donner. Parce que c'est celui-là qui me fait rentrer dans la très sainte Trinité. C'est par là que je rentre dans la très sainte Trinité. Je n'ai pas d'autre moyen de rentrer dans la très sainte Trinité. Je n'en ai pas d'autre. Il n'y a pas d'autre moyen. Est-ce que la pénitence est de nécessité de salut, dit saint Thomas. Oui, la pénitence est de nécessité de salut. Il faut confesser son péché, sinon on ne rentre pas dans le salut. Et dans la très sainte Trinité. On ne peut pas rentrer dans la confession de Jésus crucifié. Impossible. Parce que quand je confesse mon péché, ce péché-là que je donne à Jésus à travers le sacrement, eh bien, c'est ce péché-là qui est dans le corps de Jésus crucifié, qui ressent. Et donc, je touche Jésus crucifié réellement. Et c'est quand je rejoins à nouveau, de manière très crue, mon péché, que je rejoins réellement Jésus crucifié, physiquement, puisque physiquement, lui, le porte sur la croix. Et dans l'absolution, je revis de cette pénitence de Jésus crucifié. Et du mystère de la résurrection dans l'absolution. Et donc, c'est à travers ça, je rejoins et je revis le pardon des péchés de tous les hommes sur la croix de Jésus crucifié. Il n'y a pas d'autre voie d'entrée dans le salut. Et si ceux qui ne se confessent pas rentrent dans le salut, c'est à cause du sacrement de pénitence. De ceux qui le vivent, puisque... On le fait au nom de tous. On le fait au nom de Christ, et donc on le fait au nom de toutes les nations, de toute l'humanité. On assume avec le Christ, à travers notre péché, tous les péchés du monde. Vous comprenez, parce que notre péché, il y a un lien entre notre péché et tous les autres péchés qui se sont commis. Il y a un lien. Nous sommes en partie, il y a un corps mystique dans le péché. Un corps mystique très particulier. Et c'est Lucifer qui en fait l'unité. Et donc, mon péché, dès que je touche mon péché, je touche tous les autres péchés. De sorte que si je mets mon péché dans la confession du Christ crucifié et dans le mystère de la résurrection, alors à ce moment-là, c'est tous les péchés qui sont, pour ainsi dire, emportés. Dans le mystère de la confession. Le mien est dissous, certes, substantiellement, les autres sont emportés vers la miséricorde, vers le pardon. Et tous ceux qui portent les péchés non encore absous reçoivent une grâce de repentir pour qu'ils puissent commencer, eux, à rentrer dans le mystère de la confession. Et donc, je suis instrument de rédemption pour le monde entier. C'est pour ça que je ne veux pas, quand je suis chrétien, être un égoïste. Et je vais me confesser, parce que je ne suis pas seul. Ma foi, ce que disait Saint Bernard, si je dois aller en enfer, je m'en fiche, mais que les autres aillent en enfer, je ne le veux pas. Donc, je vais me confesser. Et il disait, je suis sûr d'être réprouvé, d'être en enfer. Il en était convaincu pendant un an, Saint Bernard. Je suis convaincu que pour moi, c'est la réprobation éternelle, l'enfer. Mais il dit, je te supplie. Je continue à être fidèle, à rester, à essayer de croire, etc. pour que les autres, eux, ils n'y tombent pas. Puisqu'il en était sûr qu'il irait en enfer. Pendant un an, il y avait ce sentiment que Jésus avait sur la croix, qu'il a partagé pendant, qu'il était abandonné définitivement par le Père. Et il l'a eu, ça, Saint Bernard. Et c'est ce que Jésus a fait sur la croix. Il sait qu'il est réprouvé définitivement. Du côté de la justice de Dieu, en pleine vérité. Parce que du coup, sa vision béatifique, il est dans la vision béatifique, vous comprenez, sur la croix, Jésus. Certes, mais sa vision béatifique, elle voit le Père par la médiation d'un de ses attributs. La vision béatifique pénètre dans l'intelligence humaine du Christ. Voyez ? Pour lui permettre de voir le Père. Mais comme c'est dans une intelligence humaine, il faut bien que ça se fasse par l'intermédiation d'un des attributs. C'est les sommets de l'intelligence du Christ. Ce n'est pas toute l'intelligence du Christ. Et donc, sur la croix, il est en relation avec le Père par l'attribut de la justice du Père. Et c'est pour ça qu'il se voit réellement et infiniment condamné. Est-ce que vous pourriez parler un peu des indulgences? Oui, plus tard. L'ornière qui est créée par le péché, comment la combler par la confession? Par la pénitence, par l'oraison, par une indulgence, par un acte de charité, par la confession. Par le mystère de la confession. On comble l'ornière créée par le péché par le feu. Les bêtes sont partagées en deux et le feu passe entre les deux morceaux du bœuf, entre les deux morceaux du bélier, entre les deux morceaux de l'agneau. Et c'est le feu de la confession, le feu de la confession, le fruit de la confession du Christ sur la croix face au Père, et le fruit de cette confession, c'est le feu de la résurrection, le feu du Saint-Esprit. Le feu de la résurrection, c'est la confession du Christ comme péché des hommes. Et le feu du Saint-Esprit, c'est le feu de la confession du Fils comme éternellement face au Père. Il confesse. Et du coup, vous voyez, cette confession, c'est quoi? C'est que finalement, les deux se rejoignent, le feu de la résurrection et le feu du Saint-Esprit, parce que c'est la confession du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, ce feu, c'est le Saint-Esprit qui confesse qu'il est l'amour dans la blessure du cœur de Jésus. Avant le mystère du coup de lance, le Saint-Esprit ne se confesse pas. Il n'y a pas de confession du Saint-Esprit. Dans la très sainte Trinité, c'est le Père et le Fils. Et le Saint-Esprit. Mais c'est le Fils qui se montre tel qu'il est, en pleine lumière, le face-à-face. Du point de vue de la lumière, c'est le Père et le Fils. Et le Fils confesse au Père que Dieu est Dieu et qu'il est Dieu. Et le Saint-Esprit devient confession au moment où le cœur de Jésus est ouvert. Il peut confesser à travers l'humanité ressuscitée du Christ, à travers le cœur ouvert du Christ, que lui, il est l'amour substantiel. Parce que dans la très sainte Trinité, l'Esprit Saint est un amour substantiellement passif et donc il ne peut pas être confession. Il est passif. Et l'Esprit Saint devient incendie, amour actif à travers la blessure du cœur du Christ. C'est pour ça que l'Esprit Saint ne peut pas être envoyé avant que le cœur de Jésus soit ouvert dans sa mort. Ce qui est dans l'Écriture, vous le savez très bien. De sorte que dans le sacrement de confession, nous avons encore, c'est très bien d'avoir posé la question, nous avons une nouvelle confession qui apparaît, et il me semble que c'est ça la res du sacrement. Nous allons maintenant rentrer là-dedans. C'est cette confession de l'Esprit-Saint dans le cœur blessé de l'agneau. C'est la res du sacrement dont nous sommes porteurs. Le Saint-Esprit devient confession de l'amour. Alors, je vous fais rapidement parce qu'on n'a pas peut-être pas assez de temps, mais j'aurais voulu vous lire Saint Thomas d'Aquin. Bon, je vous le résume, n'est-ce pas? Saint Thomas d'Aquin, somme théologique. À propos du traité de la pénitence, pour ceux qui veulent regarder, c'est la question 74 du supplémentum. Peut-être ou de supplémentum ou de la tertia parte, je ne sais pas, je ne m'en rappelle plus. Je crois que c'est peut-être la tertia parte. Alors, quelle est la matière du sacrement? Donc, je vous rappelle que dans tous les sacrements, il y a une matière et une forme, puisque c'est une réincarnation du Christ. Le Christ s'est incarné une fois, et maintenant qu'il est dans la résurrection, il veut prendre chair à travers nous. Il veut que toute sa divinité soit dans notre chair humaine, à nous. Il constitue l'Église à travers les sept sacrements. Et c'est pour ça que dans tous les sacrements, il y a une forme divine, c'est le Christ en pleine divinité, et une matière. Parce que Dieu se fait homme à travers le sacrement. Donc, le sacrement de pénitence, il y a également une matière et une forme. Quelle est la matière? Quelle est la forme? La matière et la forme du sacrement, c'est la contrition. Ce sont les actes du pénitent qui constituent la matière du sacrement. La contrition, la confession, l'aveu. J'apporte les actes, pas les circonstances, pas mes justifications, pas ma plainte, mais la matière. Et telle qu'elle est, les faits, les sources, dans leurs sources. Les conséquences, on s'en fiche, ce qui est venu après. C'est pour ça que je vous ai dit, examen de conscience, tous les soirs, regardez le moment où vous avez dérapé. Ce qui vient après ne m'intéresse pas. Et entre les deux, la décision de m'en séparer, la résolution. Je suis décidé de me convertir. J'ai la contrition, je suis décidé, j'ai le ferme propos, je suis décidé à m'en séparer et je vais l'avouer. Je vais le confesser tel qu'il est. Voilà la matière du sacrement. Le Père Emmanuel disait, la matière du sacrement, la pénitence, mais c'est tout simple, c'est la contrition. Alors puisque tu pleures, que tu es désolé, écoute, je veux pas le savoir, hop, absolution. Un jour, j'avais préparé le scrupuleux. J'avais préparé, bien sûr, ce que je préfère à une confession générale. J'avais préparé un papier. Il y avait 6 pages. Mais 6 pages, c'était pas du baratin. C'est pas du baratin avec des phrases. Non, c'était que des trucs. Tac, 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 tac. sais pas s'il y avait 6 pages, mais enfin, il y avait, bon, c'était écrit petit en tout cas, et il y avait pas mal, quoi. J'avais mis ça du temps à faire ça, hein, dans mon ermitage, il faut s'occuper, vous comprenez. Alors, j'arrive avec mon papier en me disant, bon, voilà, je pense j'aurais aimé faire tous les péchés de toute ma vie, une confession générale, quoi. Alors, voilà, j'ai. Bon, donne-moi ça. Hop, hop, au panier. Et oui, il s'en fiche. Il y a l'aveu, il y a la contrition, il y a le désir de changer de vie, il y a la matière. Et le scrupuleux, l'orgueilleux, il dit, oh, il ne s'est pas intéressé à ce que j'ai fait. Ah, je l'ai regardé d'une manière telle qu'il a dit, bon, je vois que ça te fait de la peine. Ça valait tout, ça. Hein? Alors, la forme du sacrement. La forme du sacrement, c'est les paroles du prêtre qui dit « Ego te absolvo ». Donc, si quelqu'un vous dit « Moi, je te pardonne », ça y est, vous êtes pardonné. Ego te absolvo. Ce sont ces paroles-là qui dissolvent le péché. Dissolution du péché. Absolution. Dissolution. Absolvo. C'est une dissolution absolue. Ego te absolvo. Quand il dit ego, le ego, c'est pas le prêtre, c'est le Christ. C'est la voix du Christ. C'est la parole du Christ. C'est la présence réelle du Christ. Ego te absolvo. Et l'absolution a lieu de la blessure du cœur à la résurrection. C'est l'instant, le passage de la blessure du cœur à la Pâque, à la résurrection. C'est ce passage que vous touchez réellement quand le ego frappe en plein visage. Et effectivement, vos péchés sont introduits à ce moment-là dans la blessure du cœur et brûlent dans la Pâque de la résurrection et vous vivez réellement présence réelle de la résurrection. Vous touchez physiquement la résurrection. Là, la mort et la résurrection. Quand vous avez fait l'aveu, vous touchez physiquement. Vous faites l'unité, et donc vous touchez physiquement, vous êtes en face du prêtre, c'est le sacrement, présence réelle, la confession de Jésus crucifié. Mais ici, avec le ego te absolvo, votre aveu, votre confession est transformée dans la confession de Jésus sur la croix. Donc ce n'est plus votre petite contrition, c'est le cœur contrit, broyé du Christ, c'est l'intensité. Votre intensité d'amour dans la contrition est peut-être. Vous êtes peut-être désolé parce que vous aimez Dieu, mais. Ah, la crème chantilly était bonne quand même. Donc je suis désolé, mais pas trop, quoi. C'était tellement bon. Mais enfin, je suis désolé, oui. D'accord. Ce que j'ai vomi sur la moquette que papa venait de mettre dans le salon. Alors, c'est surtout à cause de ça que je suis désolé parce que j'ai pris une de ses roustes. C'est très mélangé, ma charité, vous savez, dans la contrition. Tandis que la charité du Christ, quand il est broyé par le péché, l'amour qu'il a pour le Père est infini, infini, infini. Et donc l'amour qui descend réellement dans ton cœur, qui remplace l'amour de ta contrition, est infiniment et substantiellement plus grand. C'est pour ça que la demande de pardon que tu fais tout seul, le soir, en demandant l'absolution du soir, tout seul face au Christ, là-haut, tu reçois certainement l'absolution, tu reçois quand même le pardon des péchés, mais ici tu ne reçois pas le pardon des péchés. Un petit peu, si tu veux, un petit peu. Tu reçois le pardon. Oui, tu es pardonné, bien sûr, mais là, tu reçois l'absolution. Tu reçois le mystère de la confession. Tu reçois l'amour infini dans ton cœur. Il s'y est mis. C'est une certaine communion, si vous voulez. Mais c'est le cœur. Votre cœur c'est un peu, saigne un peu dans la contrition. Donc il s'est un peu ouvert. Il y a une petite ouverture du cœur. Il saigne un peu. Et du coup, il communie à la communion de Jésus sur la croix. Et c'est cette communion, cette présence réelle, la communion de Jésus sur la croix, qui est dans votre amour, dans votre cœur. Réellement, vous devez le croire. J'ai une confiance totale. Je sais qu'en ce moment, tu me donnes cette plénitude torrentielle d'amour de Jésus crucifié sur la croix. C'est un acte d'espérance, hein, ce que je viens de faire là. J'ai une confiance totale qu'en ce moment, tu me donnes la plénitude de tout ton amour, toutes tes grâces. C'est un déluge. C'est le déluge. C'est le grand déluge de sang, le grand déluge de Noé, le grand déluge du kaparat. Le véritable kaparat, c'est le corps, le cœur de Jésus qui brûle dans la résurrection, le cœur de Jésus qui est ouvert sur la croix. C'est cet amour infini de Jésus, broyé par les péchés. Et qui confesse ce qu'il est. Voilà ce que je vaux. Voilà ce que l'homme vaut. Alors l'homme, c'est moi. Voilà ce que je vaux. Oui. À côté de Jésus, on sera toujours très bien. Ego et solo. Et après l'absolution, il y a, comme vous le savez, le fruit du sacrement. Le fruit du sacrement, ben, c'est la rémission des péchés. L'effet, pardon, pas le fruit. L'effet sacrement, la rémission des péchés.
L'arrêt, c'est l'effet ou le fruit ?
Non, là je parle de l'effet. Ça, c'est l'ensemble du sacrement. La matière, la forme, l'effet. Après l'absolution, il faut qu'il y ait la rémission des péchés totale. Alors vous êtes... Le péché est dissous, mais il faut maintenant que vous deveniez rédempteur avec le rédempteur. Et donc, il faut satisfaire au péché. Et vous devenez, j'allais dire, rédempteur, satisfaction. C'est pour ça qu'il y a la pénitence. Vous devenez donc solidaire de tous les péchés qui ne sont pas pardonnés. Vous avez été pardonné, donc vous êtes solidaire de tous les péchés non pardonnés. C'est tout ce qui n'est pas pardonné. C'est pour ça qu'il faut satisfaire. C'est là que vont intervenir l'indulgence, etc. Hein? La pénitence, l'indulgence. La satisfaction, on appelle ça. Il faut faire pénitence. Et donc le prêtre vous donne une pénitence, d'ailleurs. Et quand vous faites la pénitence, n'oubliez jamais, quand vous faites la pénitence que vous demande le confesseur, n'oubliez jamais que la présence réelle, sacramentelle, est là, pendant que vous la faites. Il y a présence réelle pendant la pénitence. Il y a présence, la présence réelle jaillit à l'instant où vous rentrez dans le confessionnal. Bon. La transmutation, ce n'est pas une transsubstantiation, la mutation, oui, je crois que c'est une mutation, le passage de la mort à la résurrection, hein, s'opère à l'absolution. Et la communion se réalise là, au moment de la pénitence. Vous communiez au fruit dans la pénitence. Il y a présence réelle du sacrement. Et une fois que vous avez communié, après, il y aura le fruit. Tous les fruits. C'est autre chose. Mais le sacrement lui-même est là. De même que dans la messe, vous voyez, il y a la matière, le pain. Le pain. C'est les péchés. Le vin, c'est l'amour surabondant et débordant en pleurs. C'est l'amour, la contrition. La résolution de s'en séparer, c'est l'union entre les péchés et qu'on va présenter, si vous voulez. Bon, la consécration, la communion. Alors, puisque maintenant on rentre dans le tableau, je vous fais un petit... Vous voyez, donc c'est en fonction de ce que nous dit saint Thomas que je vous propose maintenant de faire un tableau pour récapituler peut-être tout ce qu'on a peut-être déjà plus ou moins trouvé dans l'Écriture, dans la Bible et la fameuse grande montée de la Bible. À travers cela, vous avez les cinq perfections du pardon. Le pardon est quelque chose de parfait. La confession est quelque chose de parfait. Et donc, il y a cinq modalités. Alors, je vous signale comme ça pour les philosophes. Laisser. La confession est un acte dans la contrition. Le bonum. C'est dans la séparation d'avec tout ce qui n'est pas, tout ce qui est mal. C'est le bonum. Et donc, vous mettez dans le bien. Le verum, vous mettez en pleine lumière, le vrai. L'opération vitale, c'est le passage de la mort à la résurrection. Il donne la vraie vie. Et le devenir, c'est que du coup, vous faites que ce qui est en devenir sur la terre devienne, se rapproche de la dissolution finale du péché. Mais ça, c'est les cinq modalités de l'acte. C'est pour les philosophes qui ont étudié Aristote. Les cinq modalités de l'acte, c'est esse, bonum, verum, opération vitale, devenir substantiel. On avait vu, je ne sais pas si vous vous en rappelez, on avait vu l'année dernière que c'est en fonction de ça que dans le sacrement, c'est en fonction de l'essai. Donc, on va mettre ça comme ça, si vous voulez. Comme... Rappelez qu'on avait pris ça pour regarder le sacrement de l'Eucharistie dans la méditation biblique l'année dernière. Essai, bonum, verum, vita, la vie, devenir, le devenir substantiel, l'âne. Là, vous êtes lié dans le pardon à tout le cosmos, à toute la création, dans le devenir, tout ce qui est en devenir, tout ce qui est en genèse, tout ce qui appartient à la phusis, à la nature. Vous êtes en lien ici avec tout le monde des vivants, donc de l'humanité, si vous voulez. À partir du moment où vous êtes en lien ici avec tout le monde, avec votre propre monde, si vous voulez. C'est vous-même, tout seul. C'est votre péché, celui-là. C'est le vôtre, c'est bien le vôtre. Mais on pourrait dire aussi l'Église. Le lieu de la vérité. La résolution, c'est vous. Et enfin, il y a l'essentiel du sacrement. Eh bien, vous êtes lié au Christ sur la croix. Donc vous avez ces cinq aspects. Voyez, vous rejoignez le pardon. Vous participez au pardon de tout le cosmos, de toute l'humanité, de toute l'Église, de votre propre sainteté, si vous voulez, et la sainteté du Christ. Ça, c'est la grande structure. Et donc, on n'est pas seul dans le sacrement et dans le mystère de la confession. Et on avait vu, justement, que l'année dernière, je ne sais pas si vous vous en rappelez, qu'on disait que l'Eucharistie était en fonction de l'essai, l'Eucharistie était un sacrement, l'Eucharistie s'appelait l'Eucharistie, c'est une action de grâce, vous vous rappelez, c'est un mémorial, voilà pour le verum, c'était un sacrifice, voilà pour la vie, et c'était une messe, mission. Dans le monde, est envoyé dans le monde, c'était une messe. On dit que l'Eucharistie est une messe, on dit que l'Eucharistie est un sacrifice, on dit que l'Eucharistie est un mémorial, on dit que l'Eucharistie est une Eucharistie, une action de grâce, on dit que l'Eucharistie est un sacrement, et le sacrement. Ah, pour la confession, eh bien, on dit que la confession, le sacrement dont nous parlons aujourd'hui, on l'appelle de plusieurs noms. Je ne sais pas si vous avez remarqué, sacrement de pénitence, sacrement de réconciliation, sacrement du pardon, sacrement de confession. Est-ce que vous pouvez me donner... Je voudrais me confesser. Je voudrais recevoir l'absolution. Donc vous avez cinq... On l'appelle de cinq manières, couramment. C'est couramment. A, ces cinq manières correspondent ici aux cinq structures du sacrement. Alors, voilà ce que je vous propose, mais vous pouvez très bien discuter. Hein. C'est le sacrement de réconciliation. On l'appelle sacrement de réconciliation. On l'appelle sacrement du pardon. Dès que vous décidez de vous séparer du péché, vous êtes pardonné. On l'appelle sacrement de confession, puisque vous confessez vos péchés. Si vous confessez vos péchés, ils vous seront remis. On l'appelle sacrement de pénitence. On l'appelle sacrement de pénitence. Ça, c'est pour la satisfaction. Et pour ce qui correspond à l'absolution, on l'appelle sacrement de... On l'appelle absolution. On l'appelle sacrement de délivrance. On l'appelle sacrement de la rémission des péchés. C'est le sacrement de la rémission des péchés. Ça s'exprimait beaucoup plus au Moyen-Âge, mais maintenant, un peu moins. Mais disons, absolution. Est-ce que je peux recevoir le sacrement de l'absolution? Mais attention, c'est pas parce que je vais au sacrement que je vais recevoir l'absolution. Le prêtre peut me refuser l'absolution. C'est pas grave. Je suis quand même rentré dans le sacrement. Parce que même si j'ai pas l'absolution, c'est comme certains divorcés qui peuvent pas accéder à la communion. Ils peuvent pas accéder à la communion, ça c'est d'accord, mais ils peuvent accéder à l'Eucharistie quand même dans les quatre autres aspects. Donc ils rentrent totalement dans le mystère de l'Eucharistie et dans ses fruits. C'est pour ça qu'il faut qu'ils aillent à la messe quand même s'ils n'ont pas le droit de communier. Et je peux me confesser quand même si je ne reçois pas l'absolution. Ça, c'est un autre problème. Il suffit simplement que j'exprime cette confession avec beaucoup de contrition et que je rentre dans les autres aspects du pardon. Parce qu'en général, c'est pour des raisons ecclésiastiques. Ils sont sûrs que le prêtre ne donne pas l'absolution. Alors... Ah oui, alors je reprends uniquement ce qu'on a déjà vu, hein, et après on continuera. On avait dit, vous savez que dans la cérémonie du Kippour, dans le livre du Lévitique, eh bien on agitait les quatre branches, n'est-ce pas? La branche de la croix, n'est-ce pas? Ça, c'est l'autel du Caporet, c'est fait avec acacia, etc. Hein, avec, et ça, c'est le Caporet dans le Saint des Saints, c'est fabriqué, vous savez, on a lu ce passage. Bon. Et puis, il va y avoir le sidra, il va y avoir la myrte, il va y avoir le saule, et il va y avoir la palme. Alors là, c'est facile. J'espère que vous voyez. Donc, le sidra, c'est le point de vue du cœur, bonhomme. Sidra. Le point de vue du vrai, c'est la myrte. Vous vous rappelez? C'est les larmes, hein? C'est bon. Parce que dans le cédra, je vous rappelle, il a une bonne odeur et une bonne saveur. Il représente chez l'homme le cœur, la sensibilité. Et le Midrash disait, je vous le rappelle, que du coup, il représente en Israël, donc dans le peuple de Dieu, il représente ceux qui ont la sagesse, la connaissance contemplative et les actes qui y correspondent. Donc ce sont des saints. Dans la myrte, c'est ceux qui ont la sagesse, qui ont la connaissance, qui ont la Torah, mais qui n'ont pas les actes. Ce ne sont pas des saints. Ce sont des sages, mais ce ne sont pas des saints. La myrte, alors ça représente les yeux chez l'homme. Il y a la palme qui représente chez l'homme debout, les pieds, l'homme qui se redresse. Le Christ est dressé sur la croix et il se redresse dans la résurrection. Le passage de la mort à la résurrection, c'est l'homme qui est à nouveau élevé dans la droiture. Les pieds. Et enfin, le saule, c'est que du coup, on crie le Hosanna Rabba, on crie le Hosanna Rabba pour le monde entier. Et c'est la dernière chose qu'on demande dans le Hosanna Rabba, c'est la quatrième demande qu'on fait dans le Hosanna Rabba, on prie pour l'unité d'Israël et de toutes les nations dans la rédemption du Messie. Le saule qui crie, c'est la bouche. Et je vous ai fait remarquer que dans l'Évangile, chapitre 7 de Saint Luc, la femme, elle montre beaucoup d'amour. Elle apporte le parfum pour la sépulture sur le corps du Christ. Donc voilà pour la croix. Elle montre beaucoup d'amour, voilà pour le sidra. Elle pleure sur les pieds du Christ. Elle oint les pieds du Christ avec l'huile. Et elle l'embrasse. Donc la bouche, elle l'embrasse. Elle oint les pieds du Christ avec de l'huile. Comme dit le Christ, elle pleure de ses yeux, elle essuie les pieds avec ses cheveux, elle montre beaucoup d'amour et elle apporte le nard, le parfum, pour la sépulture, vous vous rappelez. Le Christ fait remarquer ça, hein, c'est pour ma sépulture. Pas dans le chapitre 7, c'est dans l'évangile de Saint Jean que le Christ montre que c'est pour la sépulture. Oui, c'est curieux, hein, toutes ces correspondances extraordinaires. Bon, il y a aussi, je vous avais fait remarquer que c'est juste pour vous montrer que c'était organique tout ça. Hein. On a fait toute la grande montée, toute la grande montée biblique. Alors, si vous voulez bien, on peut essayer de la reprendre, la grande montée biblique. Ben, la pécheresse, elle s'approche de Jésus avec un vase de parfum de nard. Et dans l'évangile de Saint Jean, Jésus donne l'explication en disant c'est pour ma sépulture. Donc c'est la mort, c'est l'arbre de la croix qui est visé. C'est Jésus qui est la croix. Jésus, c'est la croix vivante. Elle s'approche avec beaucoup d'amour. Voilà pour le sidra, avec son cœur. Et ça se manifeste par le point de vue des larmes. Par l'onction de l'huile sur les pieds et par les baisers. Elle l'embrasse partout. Ça, c'est explicite, ça. Bon, ensuite, on avait regardé à propos du livre de l'Exode. On avait regardé la confession à partir du livre de l'Exode, des quatre décrets du Pharaon. À chaque décret du Pharaon, il y avait eu la naissance, 1, de Myriam, 2, le mariage de Jochébed, 3, la naissance d'Aaron, 4, la naissance de Moïse. Comme réponse aux quatre décrets. Et effectivement, Dieu dit à un moment, « J'ai pitié de mon peuple. » Alors, « J'ai pitié de mon peuple. » qui est opprimé par Pharaon. Voilà, deux points. Alors, il dit, je le ferai sortir d'Égypte. Il va nous faire sortir du péché. La sortie du péché. Je le ferai sortir d'Égypte. La parole de Dieu, hein. Je le ferai passer de l'esclavage à la liberté. Je lui donnerai la liberté. C'est autre chose. Ça, c'est négatif, sortie d'Égypte. La liberté nouvelle, c'est positif. Héber, vous vous rappelez? je le rédemptorerai, je le sauverai, je lui pardonnerai. Vous vous rappelez, c'est le Gimel Aleph Lamech. Je le rédemptorerai, je le sauverai. Et il ira dans la terre promise. Et je serai un avec lui et lui avec moi, le peuple. L'unité du peuple avec Dieu. Oui, vous avez la même structure là. Et tout ça, c'est parce qu'il y avait eu 4 décrets de Pharaon. Premier décret de Pharaon, je vais leur donner la vie amère. Premier décret de Pharaon, c'est au début du livre de l'Exode. Je vais leur donner la vie amère, je vais les accabler de travaux accablants, et je vais leur rendre la vie amère. Et c'est à cette occasion que la petite Myriam naît. Naissance de Marie, naissance de Myriam. Ici, au niveau, on va les empêcher de vivre. Une fois qu'ils vont naître, vous tuez tous les enfants mâles. Deuxième décret. Et c'est là que va naître Aaron, le prêtre, qui redonne la liberté. Le prêtre donne une nouvelle vie, la grâce. Dès qu'un enfant sera né, troisième décret, on le jettera dans le Nil. Et du coup, c'est à cet instant-là qu'il y a la naissance de Moïse, sauvé des eaux et sauveur de son peuple. Je serai un avec Dieu. Et on supprime toute possibilité d'éducation familiale, toute possibilité, quatrième décret, toute possibilité d'exercer un culte. Et c'est le dernier décret qui apparaît en même temps que la conversion de Moïse et l'appel de Moïse. Donc naissance de Moïse, et Moïse redevient, et naissance, c'est dire, de la vocation de Moïse dans son cœur à cette occasion-là. Puisque c'est à ce moment-là que, du coup, il descend chez les Hébreux pour voir. Donc vous voyez, c'est vraiment toujours la même structure. Toujours pareil. Bon, ça c'est ce qu'on avait vu. On avait vu dans l'Ancien Testament, le grand parcours de l'Ancien Testament que nous avons fait, en fonction des alliances. Il y a une alliance malgré le péché, il y a une alliance entre Dieu et le pécheur, que ce soit avec Adam, avec Caïn, ou avec l'humanité, ou avec Caïn, ou avec la Mecque. Adam une fois, Caïn 7 fois, la Mecque 70 fois 7 fois. Vous vous rappelez de ça. Il y a une alliance à chaque fois. Il y a une première séparation avec Noé. Le capard de l'arche de Noé. C'est une première séparation, c'est la grande séparation. On est séparés par le déluge. Il y a ensuite une première alliance messianique. Alliance messianique avec Abraham. Abraham, c'est une alliance messianique. Ensuite, il y a une première alliance au niveau du corps mystique, donc avec Moïse. Si on préfère, on peut faire avec... C'est une alliance de grâce, mais enfin bon. Une alliance de grâce, la vie. Hein. Et l'alliance de grâce, c'est avec Joseph, disons. En Égypte, c'est pour tout le point de vue du livre de l'Exode, où Dieu fait grâce. Il fait que le peuple reste uni. Les 70 fils d'Abraham qui rentrent en Égypte étaient une seule personne. Les 70, c'est un verset, je sais plus, j'aurais pu vous le lire ça, et vous le décrire d'après l'hébreu. Les 70 étaient une seule personne, il y avait une seule vie de la communauté, ça c'est la grâce qui fait l'unité d'un corps mystique. Et c'est Joseph, c'est l'Exode, c'est de l'Exode jusqu'à... En plus, ensuite, il y a une alliance d'amour avec Moïse, donc de Joseph à Moïse. Avec la Torah. Et enfin, il va y avoir une alliance de sagesse avec David. C'est pour ça qu'on a lu le Cantique des Cantiques. Et avec l'apparition du Temple de Jérusalem, ça y est, il est construit, le Saint des Saints est là, et il peut y avoir le Cantique des Cantiques. Donc ça, c'est la grande montée qu'on a fait dans notre méditation biblique hier. Et on retrouve là, vous voyez, la grande structure. Bon, qu'est-ce que nous avons vu encore? Nous avions vu d'autres fois le point de vue du Cantique des Cantiques avec les parfums. Cantique des Cantiques, chapitre 4, verset 14, qui sont le symbole même du pardon. Il reste quand même à Adam, Cain et Lamech quand même un minimum d'amour naturel, la rose et le safran, l'odeur du pommier. Et puis, il va y avoir ensuite, pour l'amour, le nard. Alors ça, c'est le nard. Pour la souffrance due à la connaissance du péché, la myrrhe. Pour l'engloutissement dans le sépulcre jusqu'à la résurrection, l'aloès. Puis, pour le lien avec l'origine de tout ce qui existe, la cinnamome. Ce qui structure le pardon au niveau mystique, puisque je vous ai déjà expliqué, ça fait bien 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, des parfums naturels, mais il faut mettre aussi l'encens. Cinnamome et encens. C'est le lien, au fond, entre le Père. On peut mettre aussi l'encens au niveau individuel, là. Donc, le pardon, il faut se pardonner à soi-même. Voilà l'encens. Il faut recevoir sa propre sainteté éternelle finale, là. Je reçois toute la gloire de la sainteté finale que j'aurai quand je rentrerai dans l'éternité. C'est l'encens. Il faut se pardonner à soi-même. Il faut se retrouver soi-même dans sa finalité. Et du coup, c'est ce don que je reçois. Je le reçois ici, à partir de l'amour, parce que je suis désolé en face de Dieu, dans la contrition. Et du coup, je reçois l'encens. Je reçois à travers le sacrement du pardon, à travers la contrition, je reçois déjà, je me lie à ma sainteté finale. Et à partir de ce péché, je me repropulse. Vous voyez ? Du coup, je fais cette prédication dans cette sainteté qui est la mienne, qui est une grâce très particulière. Du coup, je suis lié à la plénitude de grâce. Et je reçois Marie. Je reçois la plénitude de sainteté de Marie. C'est le deuxième don parfait. C'est le deuxième pardon. Je reçois Marie. C'est le nard. Et du coup, Marie, elle est liée à Jésus, le nouvel Adam, crucifié et glorifié. Et donc je reçois, voilà la myrrhe, je reçois l'homme, l'Adam blessé, l'homme souffrant. Du coup, je reçois l'Esprit Saint, parce que l'homme souffrant de la mort à la résurrection m'envoie l'Esprit Saint. L'aloès, vous vous rappelez que l'aloès, c'est une pourriture qu'on prend sur l'écorce de l'arbre, qu'on met dans la terre pour que ça pourrisse une deuxième fois dans l'obscurité de la terre, et il sort l'huile du parfum de l'aloès. C'est vraiment l'Esprit Saint qui est exprimé par ça, à partir de la présence de Jésus au tombeau, dans le passage de la mort à la résurrection. Et enfin, la cinnamome, qui représente le don, du coup, c'est le Père qui m'est redonné avec tout ce qu'il porte en lui. Or, il porte le Verbe, il porte l'Esprit Saint, il porte la création glorifiée tout entière. Et c'est le don final. Voilà les cinq pardons. Voilà ce que je dois vivre et recevoir. C'est les cinq fruits, hein. Ça, vous sentez bien que c'est les cinq fruits du sacrement et du mystère de la confession. Bon, ça, c'est toutes des choses que c'est un ensemble de choses que nous avions déjà vues. Mais je voudrais quand même entrer un tout petit peu dans ce que je voulais vous dire. À savoir, quel est le processus qui est déjà un petit peu donné ici, dans la matière, la forme et l'effet, c'est la grande montée du sacrement. Et dans la grande montée du sacrement, je terminerai par là. Alors, je vais aller assez vite, parce que je vois que c'est l'heure. Il y a la pré-confession, ce qui précède la confession. En plus, je vous en ai déjà parlé. Le Christ, en s'incarnant, dans l'incarnation et jusqu'à la nativité, il y a comme une préparation au mystère de la confession qu'il doit assumer. C'est une pré-confession. Voyez ? Donc, de l'incarnation et de la nativité, il y a une pré-confession. Dès qu'il y a la nativité du Christ, la confession de Jésus, eh bien, ça se fait à travers l'enfance. Alors, à travers l'enfance de Jésus, il va y avoir de l'enfance au baptême de Jésus. De l'enfance au baptême de Jésus, Jésus a une certaine manière de vivre ce mystère de la confession. Il est de plus en plus meurtri dans son petit cœur d'enfant, dans son petit cœur sensible d'enfant. Dans l'incarnation, il connaît le péché dans son centre, comme Dieu le connaît. Mais dès qu'il va naître, il va commencer à connaître le péché dans son cœur d'enfant, comme Marie le connaît. Et donc son cœur va commencer d'enfant à être brisé, à être broyé. Et donc il y a une certaine... Et c'est petit à petit cela. Jusqu'au baptême de Jean-Baptiste, parce qu'il voit que Jean-Baptiste dit « Convertissez-vous, confessez vos péchés, faites pénitence. » Alors à ce moment-là, il comprend que c'est le moment, la résolution, d'aller à la confession. Il décide d'aller à la confession, de se séparer du péché, et il décide lui-même d'aller vers la croix. Donc, de l'enfance au baptême, ça exprime, après la préconfession, il y a quand même une espèce d'ouverture. Je m'ouvre, je reprends conscience d'une certaine manière, de ce que je suis. Il y a une ouverture de la connaissance du mal et le choix de la confession. Ouverture. J'accepte de regarder le péché. Et le baptême de Jean-Baptiste correspond au choix de la confession. Il décide de rentrer dans la pénitence. C'est vrai que c'est face à la confession des péchés par Jean-Baptiste que Jésus décide lui-même de rentrer dans la confession des péchés et lui-même de proposer un baptême de repentir et de proposer la pénitence. C'est là qu'il décide de s'y mettre. Et aussitôt après le baptême de Jean-Baptiste, il y a les tentations. Il y a les tentations. Il est tenté au désert. Les tentations de Jésus et qu'il projette dans la vie publique. De la tentation à la vie publique, de la tentation à la vie publique, il y a une nouvelle manière pour Jésus de vivre du mystère de la confession. Il est toujours broyé. Il y a une nouvelle manière de vivre du sacrement de la confession. Et ça correspond, si vous voulez, au point de vue de la séparation. Enfin, comment est-ce qu'on pourrait dire ça? Oui, je me sépare du péché. Vous voyez, à la tentation, il se sépare du péché et il dit à Satan, non. Et l'Esprit Saint l'a poussé après son baptême à aller être confronté à Satan et il manifeste devant Satan que c'est non. Et donc, il se sépare du péché. Et il sait par là que c'est à la croix que cette séparation sera efficace. Et la vie publique correspond à l'examen de conscience. Pendant ces 3 ans, il y a tout le temps d'examen de conscience. La vie publique, c'est cette confrontation, et il manifeste, il dit ouvertement, il essaie de relever les points essentiels, les crêtes, les sources, les causes. Il enseigne, il avoue, il manifeste, voyez ? Bon, ensuite, du point de vue du verum, une fois que l'examen de conscience est fait, il y a chez le Christ de la vie publique toute une attente de l'heure de la croix. Alors, cette attente est longue et fait de sa vie publique déjà un long Gethsémani, une longue agonie, une attente. Il me tarde. Exactement comme nous, vous voyez, quand on attend l'heure de rencontrer, de se confesser. Et même quand on va au confessionnal, on voit que le prêtre n'est pas disponible. Il faut qu'on attende, il faut demain. Je n'ai pas le temps. Ou alors, justement, il est là, mais il y a 10 personnes qui sont là. Je suis la 11e, j'attends. C'est l'agonie, vous voyez. C'est ce mystère de Gethsémani, que cette coupe s'éloigne de moi. Je ne peux plus me barrer, j'ai déjà décidé de me séparer. Donc c'est une agonie, c'est très pénible. C'est le point de vue de l'agonie jusqu'à la passion, de l'agonie à la mort sur la croix. Vous voyez ? Et sur la croix, en effet, donc j'ai ces manies, ces agonies, j'ai l'attente à la confession. Ça y est, j'avoue, c'est le moment. Je rentre, j'avoue. Et la croix, c'est le moment où il confesse ce qu'il est. Il confesse le péché du monde. Donc si vous voulez savoir comment spirituellement je dois vivre toutes ces étapes, vous regardez Jésus dans ces étapes. C'est pour ça que je vous le fais, évidemment. Parce que la confession, c'est d'être... C'est la grande école pour avoir la même vie que Christ. De l'incarnation jusqu'à la résurrection. La même vie que lui. Réellement. L'absolution, c'est le passage du grand sabbat, donc de la blessure du cœur, à la résurrection. C'est la Pâque. C'est la Pâque. Alors, ça correspond au pardon qui est donné à la Pâque. Il y a peut-être ici... Et on pourrait faire, si vous voulez, ici je vous l'avais fait hier, mais voyez, il y a trois moments dans l'absolution, hein, que Dieu te pardonne. Il y a d'abord l'exhortation, puis après il y a que Dieu te pardonne tous tes péchés, en vertu du pouvoir qui m'a été conféré, je te donne le pardon et la paix. Et moi je te pardonne tous tes péchés au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Et puis ensuite, le passage à la résurrection, que la passion de Jésus-Christ, la prière, les mérites de la bienheureuse Vierge Marie, tous les saints, contribuent au pardon de tes péchés, augmentant ta grâce et te fassent venir à la gloire éternelle du ciel. Donc il y a toute une montée, même dans la formule canonique de l'absolution. Là, la partie de la forme proprement dite, c'est ego te absolvo. Mais sinon, il y a la formule canonique du sacrement qui enveloppe. Et la formule canonique du sacrement enveloppe par le point de vue donc du j'ai soif, du grand cri final, la blessure du cœur, le samedi saint et la Pâque. Bon. Alors donc vous avez ici la confession et donc ici l'exhortation du prêtre, l'attente de l'absolution silencieuse. Qui est le grand silence d'environ une demi-heure. Bon, la blessure du cœur, la présence de Jésus qui confesse ses péchés, la transformation de ma contrition dans la contrition du Christ, réellement, et le passage à la résurrection. Le tout à l'intérieur de l'absolution, c'est énorme. Et ensuite, vous avez le point de vue de Jésus qui reste quand même sur la terre, l'ascension. Pendant 40 jours. Il reste sur la terre, présent réellement sur la terre. Il n'est pas remonté vers le Père. Et il y a encore une confession des péchés. Enfonce ta main dans mon côté. Enfonce ta main dans mon côté. Ne me touche pas. Il faudrait regarder les 7 apparitions pour voir les aspects du mystère de la confession là. Pour montrer ce qui se passe dans le cœur de Marie qui, elle, va être celle qui porte cette fois-ci à son tour tous les péchés du monde une fois que Jésus est ressuscité. C'est cet aspect. Et donc elle doit enfanter le monde entier dans l'Église de Jésus, dans le corps mystique de Jésus, par sa contrition. C'est elle qui va porter ça dans le mystère de compassion. Et c'est ça que je dois vivre. Je suis possesseur, cette fois-ci, de la rédemption du monde. Je suis co-rédempteur. Et ça, c'est précisément ce qu'on appelle la pénitence, la satisfaction. Et je fais la pénitence. Donc vous voyez, c'est quand même tout ça est parfaitement structuré. On va essayer de reprendre cette structure et puis essayer d'y voir un petit peu plus clair. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.